C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Il était une fois.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. L'homme et la nature, l'homme dans la nature, l'homme nature, aujourd'hui. Allons à la rencontre de celui qui aime sillonner le monde comme un barde, à la recherche de contes chez ceux qu'on appelle désormais les peuples premiers, et notamment les nomades mongols ou les Amérindiens. Dans cette quête au pays des conteurs, je vous propose de découvrir une figure incontournable du conte, un artiste prolifique, à la fois conteur, mais aussi écrivain, poète, auteur, compositeur-interprète, et musicien, avec des spectacles, mais surtout une riche discographie de contes musicaux et une bibliographie fournie de recueils de contes. Des dizaines d'ouvrages, j'ai nommé Patrick Fishman. C'est la conteuse Angèle Gauduchot qui l'interviewe dans une loge entre deux spectacles lors du festival du Légendaire à Chartres. Le festival créé par Pascal Folio, complice de longue date de Patrick Fishman, notamment dans la collection des contes des sages. C'est pas pour dire, c'est parti pour une nouvelle aventure.
I still have a dream. Yeah.
Est-ce que tu dirais que tu es un conteur de la nature?
Alors, je vais te dire, je peux le dire, une fois j'ai un petit garçon, 5 ans, des bretelles, une guêpette, un petit titi parisien qui me vient me voir après un spectacle et qui me dit « Monsieur, tu sais, quand tu racontes, c'est la nature qui parle. »
Wow.
Voilà. Donc, je, béni par cette réflexion d'enfant, je peux revendiquer, oui, je suis un conteur de la nature.
Canne de coudrier, bâton d'if, sous-bois de fée, j'ai retrouvé le vieux sentier couvert, le vent du barde. Le temps des forêts, des chemins de bruyère, le temps des sources et des matins rêvés, des brins de muguet et des fraises d'eau claire naissant dans le tendre de nos années. Le temps des forêts, des colombes blessées, rencontrant le regard d'un homme et le creux d'un être plein comme un délié, protégeant du regard les formes. Canne de coudrier, bâton d'if, sous-bois de fée, j'ai retrouvé le vieux sentier couvert, le vent du barde. Le temps des forêts, le vent sans toi ni moi, le lit des mousses et du mus, la voix, le cocon de l'agneau, le nid de l'arbrisseau, écorce de poèmes et vers à soi.
Canne de coudrier, duo de contes musicaux, la légende L'arbre noueux et le conseil des tisserands de Patrick Fishman avec Christian Zagaria. C'est pas pour dire, Angèle Gauduchot en compagnie de Patrick Fishman.
T'as aimé petit les histoires de nature,
oui.
Hein, ce que raconte le bûcheron Félix oui. Leclerc ou bien le berger oui. Giono. C'est ces contes-là d'abord qui t'ont plu,
oui.
Les contes de nature.
C'est une parole de la terre, une parole, une vérité, une peut-être aussi une quelque chose de bourru et plein d'amour, ça me touchait.
Quelque chose de bourru et plein d'amour.
Oui, ça me touchait ouais. beaucoup. Pour donner la définition du conte, pour aller un peu vite, pour ouais. ce que tu me demandes, un conteur, une conteuse, pour moi, c'est un sachet de thé.
C'est un sachet de thé.
Oui, tu le mets dans l'eau. Et puis, il infuse. Mm. Donc, tu vas en Mongolie, t'es infusé. Et puis après, tu reviens et tu peux donner à boire du thé parce que t'es infusé. Mais il faut suffisamment s'infuser dans une tradition.
Dans le monde tel qu'il est, tel qu'il va, au 21e siècle, tu dirais que... Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui racontent des histoires et des gens qui viennent les écouter? Ça tient à quoi?
Je pense qu'une intuition de ce qui est naturel et bienfaisant.
Ouais.
Et puis je pense aussi d'aller vers ce qui échappe au pire. Par exemple, les transhumanistes ne peuvent pas fabriquer un conte. Ils ne peuvent pas. Ils fabriquent des microbes, ils fabriquent des robots, des nanoparticules, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas faire un conte, ça échappe. La parole libre, la parole nourrissante.
C'est intéressant parce qu'à quel endroit ça échappe, hein? J'imagine qu'un logiciel devrait pouvoir. Ils sont capables de créer de la musique.
Mais c'est impossible. Moi, j'ai joué. J'ai à un moment donné.
À quoi ça tient ?
À un moment donné, on pouvait poser des questions aux fameux robots qu'ils ont fabriqués, qui soi-disant répondent tout. Mm. Bon, et moi, j'ai demandé. Je me souviens plus la question exactement que j'ai posée, mais c'était de quel corbeau midi moins le quart est-elle le secret ? Et je l'ai posé 10 fois la question. Eh ben, la machine pète les plombs. Elle me dit n'importe quoi. Elle est folle alliée. Ça échappe.
Oui.
Alors qu'un être humain poétique, il va choper ça, il va te répondre sur le même mode, où il va faire des rapprochements, il va faire des correspondances. Mm. Ça échappe. C'est comme un savon mouillé. Pour moi, ça me fait un peu comme Jean Le Poulain dans le temps, qui était dans sa baignoire, et puis il essaye d'attraper un savon, et puis le savon, il s'en va. Voilà. Donc,
ça échappe au pire, tu dis.
Ça échappe au pire, oui. Ah. Et donc, ça pousse les gens à sentir que le meilleur est sûrement là-dedans. Le meilleur, la capacité de fabriquer nous-mêmes nos propres images, de rapprocher, et puis dans la poésie. La poésie, c'est la possibilité de rapprocher deux choses qui apparemment n'ont aucun... J'ai bossé en maison d'arrêt, j'ai beaucoup travaillé le conte en maison d'arrêt, et pour emmener les prisonniers dans cette énergie, par exemple, je mettais une bouteille d'eau d'Évian et puis une montre.
Ouais.
Et je leur disais, voilà, pour début c'était n'importe quoi, puis tout d'un coup il y en a un qui fait, ça fait les sources du temps. Non seulement l'image est poétique, mais on rentre là dans le monde du conte. Et quand une fois que c'est goûté, même les gens les plus prosaïques, s'ils acceptent, si tout d'un coup ils sont pas trop sensés, ils se sentent pas trop en panique, et ces gens rentrent dans cet univers là et on échappe au pire, et c'est le meilleur qui vient.
C'est arrivé puisque je l'ai vu. Ce fut une chose bien étrange que la rencontre de ces deux enfants qui n'habitaient ni le même monde, ni la même époque. Même si vu d'ici, la fille venait du futur et le garçon du présent, aussi bizarre que cela puisse paraître, après-demain rencontra aujourd'hui. Et c'est là, quelque part entre la terre et les étoiles, qu'ils se retrouvèrent. Vivien n'arrivait plus à s'endormir comme avant. Quand il était plus petit et innocent, il lui suffisait de fermer les yeux, mais maintenant, il se faisait du souci. Il voyait disparaître la forêt, la rivière n'avait plus de poissons, l'océan était souillé et blessé par les activités des hommes. Les abeilles, même les grosses baleines, étaient malades. Sans les grands singes et les gorilles, qu'allait devenir le monde ? Ce soir-là, il lança tant de questions brûlantes vers les étoiles qu'elles furent plus nombreuses et plus attentives que d'habitude à se rassembler. Elles scintillaient. Toute la voûte céleste écoutait le garçon. Les galaxies se penchaient vers la Terre. « Les fleurs ont trop chaud. Les ours blancs aussi ont trop chaud. Et moi, je ne sais pas quoi faire. » À minuit, tandis que ses yeux se fermaient doucement, il posa sa tête sur ses bras, s'endormit sur le rebord de la fenêtre ouverte. Une silhouette montée sur un cheval aux longues ailes passa devant la lune et disparut d'un seul coup pour le rejoindre dans son sommeil. Elle avait le consentement et le feu vert des étoiles.
Bonjour.
Bonjour. Qui es-tu ?
Je suis Jala.
La fille qui venait des étoiles descendit de l'oiseau cheval. La monture replia ses ailes et s'éloigna un peu plus loin pour brouter l'herbe de l'éternité. Mais où sommes-nous ? Est-ce que je rêve ?
Un peu. En fait, nous sommes ici hors du temps qui passe. Nous sommes au pays des étoiles filantes.
C'est possible ça, hors du temps ?
C'est très courant dans l'univers. C'est seulement là qu'on peut se rencontrer.
Ah bon ? Dis-moi, Jala, chez moi le temps s'est arrêté aussi ?
Non, Vivien. Il s'écoule doucement pendant que tu dors.
Tu as dit Vivien. Tu connais mon nom ?
On se connaît tous les deux.
Ainsi, et ici commence le premier voyage de Vivien hors du temps.
La rencontre du conte musical Un signe des étoiles, toujours avec Angèle Goduchaud et Patrick Fishman, au festival du Légendaire.
Tout à l'heure, lors de la table ronde, tu interviewais... Est-ce que tu peux me redire les noms des gens qui étaient là que tu...
Il y avait Xavier Perron,
oui,
pour
les
Maasai, Sabah Ramani, donc qui a été chez plusieurs peuples.
Il y avait Ils sont Céline... anthropologues, tous les deux ?
Oui, un peu, mais
pas que.
Céline Ripoll, ouais. Et puis Lorenza Garcia.
Lorenza Garcia. Chacun d'entre eux a raconté leur porte d'entrée dans l'univers des endroits qu'ils ont découverts.
Oui.
Comment tu passes dans l'autre côté, dans l'autre monde. Et aussi dans le monde des allers-retours entre le monde extérieur et
Je pense qu'il y a le lâcher-prise par rapport au jugement.
Ouais.
Et puis le fait qu'à un moment tu es touché, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce que quelque chose te touche, alors c'est plus le mental qui est à l'écoute, c'est le cœur. Mm. Et quand le cœur est à l'écoute, il y a un équilibre qui se fait dans notre écoute, quelque chose qui est plus vaste, plus ouvert.
Tu dirais qu'un conte, de ce point de vue-là, c'est agissant, guérissant ?
Oui, c'est guérissant, mais il ne faut pas non plus que le conteur ou la conteuse se dise « mon conte, il va guérir lui, et il va le guérir de cette façon-là ». Non,
oui.
C'est un arbre plein de fruits, et si les gens viennent cueillir, ils sont nourris. Voilà. Il faut avoir suffisamment confiance pour que l'intention soit une intention large, celle du cœur, et pas l'intention que les gens suivent un processus tout fait, tout fabriqué.
Dans ton métier de conteur, tu es à la fois musicien, conteur, barde, tu disais.
Oui, je chante, oui, aussi.
Tu chantes. Ça ne t'empêche pas d'écrire et ça ne t'empêche pas de faire des allers-retours avec, tu disais, des spécialistes de telle ou telle question.
Non, du tout. J'ai la chance à la fois de faire les trois et en même temps la chance aussi d'écrire et de travailler l'oralité. Quand on travaille l'oralité, on travaille la fluidité et on va l'offrir à l'écrit. Et quand on travaille l'écrit, on travaille la pureté, la beauté de la langue, sa complexité, sa richesse. Et dans ce cas-là, on peut aussi l'infuser à la parole qui est dite, à la parole orale. Dans la tradition juive, ça s'appelle marcher sur ses deux jambes. L'oralité, et ça permet d'avancer, l'oralité et l'écrit. Voilà.
Oui, puis tu parlais tout à l'heure du fond. J'ai eu l'intuition que... J'ai eu l'intuition que ça pouvait se passer comme ça et je suis allée vérifier auprès de
oui,
de,
c'est ça. Oui,
de quelqu'un
oui moi
qui m'a
j'ai
dit...
eu la chance d'avoir un vieux maître, un mentor, c'était René-André Lombard, un homme de théâtre extraordinaire, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a toujours dit, si tu as une intuition, tu la suis. Si tu as deux ou trois autres sources qui te la donnent, tu la gardes. Sinon, tu la gardes, mais comme propre créativité.
Ouais.
Mais tu ne prétends pas que c'est comme ça que ça s'est... Voilà.
Ouais.
Donc, il ne s'agit pas de mettre à la poubelle. Hmm. Mais il s'agit de savoir quand on crée et quand on va chercher des sources et qu'on peut s'en inspirer et dire, voilà, ça se passait comme ça, etc.
Oui, donc un conteur, c'est pas seulement quelqu'un qui se laisse infuser, mais c'est aussi quelqu'un qui va chercher, qui...
Oui, un conteur, je le dis des fois dans les interviews, un conteur, c'est surtout une conteuse.
C'est surtout une conteuse.
Ben oui, parce que la parole, elle naît dans un endroit mouillé.
Oui.
Hein, et donc, il doit être suffisamment féminin. Je parle pas de wokisme, on n'est pas en train de se balader dans l'inversion. Je dis simplement, il doit avoir son féminin qui est suffisamment... je parlais tout à l'heure d'être infusé, c'est ça, on est dans la flotte. Hein.
Est-ce que pour des gens qui commenceraient à raconter ou qui commenceraient à rentrer dans cet univers, à découvrir cet univers des contes, est-ce que tu aurais un conseil à donner?
Oui, d'abord, je le fais, parce que j'anime des sessions de formation.
Ouais.
D'abord, c'est désapprendre.
Ouais. Désapprendre.
Désapprendre. C'est la première chose.
Désapprendre.
Moi, je mets, ça dépend le nombre de jours que j'ai, je mets les gens en situation de déséquilibre, mais bienveillants. Hein, c'est pas, je les casse pas. Mais quand on est en déséquilibre, la nature fait qu'on tend à l'équilibre. Donc, en mettant les gens, des fois, dans des situations un peu déstabilisées, ils vont trouver en eux. Et là, ce qu'on trouve en soi, on le garde. Parce que si je donne des protocoles, hein, c'est comme les protocoles médicaux, ça va soigner 1 sur 50. Hein,
c'est ça.
Voilà, parce que chacun est différent. Voilà, donc désapprendre. Et puis, c'est aussi une chose que j'essaye de faire comprendre, c'est s'il y a un cavalier et un cheval, le cavalier, c'est le conte. Et le cheval, c'est le conteur ou la conteuse, et pas l'inverse. Voilà. Donc, on se laisse chevaucher. Et le conte, comme on se laisse chevaucher, le conte va aller chercher les éléments dont il a besoin pour naître à travers la personne qui le transmet, qui va le dire.
C'est presque une histoire de transe.
Oui, un peu. C'est-à-dire que... Et donc, c'est exactement comme... nous sommes comme l'eau d'une rivière. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus ferreux. D'autres endroits, il va y avoir des herbes, du cresson, des tas de trucs. Donc le conte va passer. Il prend ce qu'il y a dans cette personne et il va venir au monde... Et donc la rétribution du conteur, c'est pas d'être formidable, c'est de sentir que le conte a vu les trésors qui nous traversent.
C'est très joli.
Et donc le sentiment de rétribution, c'est d'être traversé. Après, l'ego, il a le droit à 10%, ce sont les applaudissements ou les gens qui ont bien aimé. Mais la véritable rétribution, c'est que cette chose-là inouïe ait pu me traverser et se servir des trésors enfouis parfois que je ne connais pas en moi, pour venir au monde et les offrir aux autres.
Depuis le commencement des temps, la tribu des tisserands a pris soin de la source. Pendant tous les siècles, elle n'a jamais cessé de couler. Maintes fois, les grands frères se sont assemblés avec les pierres, les arbres et toutes les créatures vivantes. Maintes fois, ils ont pris la parole et leur chanson s'est mêlée à la forêt. Depuis l'aube des temps, ils tissent et chaque brin d'herbe est un conteur. Les légendes se souviennent. Elles disent que les pierres aussi peuvent parler, pourvu qu'un être humain leur prête sa voix. Elles gazouillent dans le vent, elles sortent des fleurs. Elles ont vu le plancton tissé au fond de la mer et l'oiseau portait dans son bec le chant des étoiles filantes. Pour la plupart, qu'est-ce qu'une pierre, un liseron qui court ou une fleur qui s'ouvre? Qu'est-ce qu'une forêt de plus ou de moins? Amis, entendrions-nous seulement le dernier cri du dernier toucan? Voilà pourquoi les légendes reviennent aujourd'hui. Les grandes personnes ont laissé les contes aux enfants, et elles ne savent plus le regard des bêtes. Elles ont fui les forêts où elles sont nées. Ma chanson dit que les rivières attendent un pont et que leurs berges sont les deux ailes des hommes. Jadis, tous les oiseaux se retrouvèrent dans un grand cercle de prairies. Et là, après avoir admiré le petit frère à quatre pattes, ils ont soulevé la voûte du ciel. L'air porte encore en lui les mots que prononcèrent les quatre vents du monde ce jour où le petit frère se tint enfin debout. Là-haut, la petite ours et la grande ours chuchotent. Elles disent par la voix des tziganes le long chemin de leur exil. Elles connaissent la roue des saisons et les ritournelles du printemps. Te souviens-tu de l'homme au milieu des bêtes? Te souviens-tu de l'arbre de la paix, du bouleau et du coucou? Souviens-toi de la pierre qui connaît tous les noms et de la clairière où naissent les contes. C'est là que les légendes t'appellent. Regarde, le soleil est au rendez-vous des tisserands. Il se prépare pour le conseil. Le voilà qui s'avance dans sa robe de pourpre et d'ocre. Il va parler.
Prologue vers la clairière de Patrick Fishman avec Christian Zagaria. C'est pas pour dire avec Patrick Fishman.
Tu t'es levé un jour, tu t'es dit je vais aller en Mongolie, il n'y avait pas de question et t'es parti.
Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai été pour chercher des contes.
Ouais.
Et ce qui est formidable, c'est que chaque fois que j'ai été chercher des contes, il m'est arrivé des histoires qui sont des histoires à raconter.
T'avais une idée de la Mongolie? Tu avais des images dans la tête?
J'avais des images de steppe, de... Ça, j'ai pas été déçu, parce que je me suis retrouvé dans des immensités, ouais. où tu ressens que t'es rien du tout, ouais. Mais que t'es dans les bras du tout. C'est pas rien du tout, t'es rien, ouais. Mais t'es dans les bras du tout. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Puis rencontrer des gens qui sont... Et surtout en Mongolie, avec les Amérindiens, ça a été parfois un peu plus difficile, bien que ça se passe bien, parce que c'est des peuples qui ont beaucoup souffert. Ouais. Et donc, en général, quand il y a des bipèdes blancs qui arrivent, c'est pour leur piquer un truc. Mmh. Bon, moi, je voulais... Et, par contre, les Mongols, ils étaient honorés.
Oui, toi, tu es arrivé... Comment t'as pris contact? T'es descendu de ton avion et puis...
Alors, il y a des endroits où j'avais des contacts, mais par exemple, en Mongolie, ça s'est fait assez naturellement la première fois. Ouais. J'avais pris des... En plus, j'ai eu cette intuition, j'avais pris des traducteurs qui étaient des jeunes. Mm. Je voulais pas un universitaire qui m'enlève tout. Puis alors, si tu te fais traduire du mongol en chinois, du chinois en russe, et puis du russe en anglais, et puis tu comprends à moitié l'anglais, c'est de la bouillie qui arrive au bout. Ouais. Donc je prenais des jeunes et je leur demandais de me dire mot à mot.
D'accord.
Et quand c'est mot à mot, comme c'est des langues... Les peuples premiers ont des langues orales beaucoup plus riches que la nôtre.
Ouais.
T'as 80 mots pour dire la neige chez les Inuits. Traduisant mot à mot, je notais, et c'était d'une poésie folle. Par exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il est criant. T'as un Mongol qui te dit, le gars de la yourte d'à côté vient de mourir, si c'est un universitaire. Mais si tu te fais traduire mot à mot, le gars, il te dit, le voisin, il est devenu ciel.
Ah oui.
C'est pas pareil.
Ah bah.
La grand-mère, par exemple, Bouriedj, c'est pas grand-mère, c'est maman cheveux blancs. Mm. Et donc, ça te donne à la fois ce rapport à la mère qui est aussi le rapport à la grand-mère. Mm. Et puis le respect, parce que c'est le respect des vieilles personnes, c'est une chose extrêmement touchante en Mongolie.
Tu as été bien accueilli, tu dis...
Très.
C'est un peuple qui a moins souffert.
Très, et puis servi par des synchronicités magistrales. Mm. C'est la nature qui répond.
Alors, par exemple ?
Oh ben, il m'arrive des histoires. Par exemple, je voyageais avec un géant mongol. Et puis, il savait que je venais chercher des contes. Et il me demandait d'abord ce que j'avais rêvé.
D'accord.
Puis si je n'avais pas rêvé, bah, tant pis mon pote, pas aujourd'hui. Et là, j'avais fait des rêves. Et il me raconte une histoire. L'histoire de Ekim Ergen. C'est un très bon archer qui détruit 6 soleils sur 7. Et puis, il rate le 7e. Et comme un imbécile, comme il est très fier, il avait dit, ben, moi, si je rate le 7e, je deviens une marmotte. Et deviens une marmotte. Et il m'explique que la marmotte, c'est pour ça que la marmotte a un pouce d'homme. Et c'est à la fois la folie qu'il a eue, mais en même temps la sagesse qui demeure. Et moi, je monte à cheval 10 minutes après, je tombe et je me foule cet endroit-là qui commence à gonfler.
Le pouce.
On trouve un chasseur de marmottes dans la journée sans le chercher. Je mange un bouillon de grouletaille. Enfin, et de synchronie en synchronicité en synchronicité, je rentre dans la logique merveilleuse de ce que la nature, qui a entendu ma demande, me renvoie. Et c'est un conte.
On n'est pas dans l'absurde quand quelqu'un te dit de quoi tu as rêvé.
Oui.
C'est comme une porte pour rentrer dans cette.
Voilà. Ou alors tu dis à quelqu'un, je cherche tel conte, et la personne me dit, c'est pas celui-là qu'il faut que je vous raconte. Puis t'en racontes un autre qui est vraiment bien. Ou alors il t'emmène aussi sur le lieu des légendes en Mongolie.
Hein, c'est passé là.
La fille de pierre, par exemple, c'est une chose qu'on a dans plein de traditions. Une fille qui attend son compagnon qui est parti à la guerre et qui ne revient pas. Elle devient comme une pierre. On a ça dans les Pyrénées, on a ça un peu partout. Et bien le gars me dit, mais attendez, je vais vous emmener. Voilà. Donc c'est aussi, tu rentres dans des populations qui entendent la demande poétique et qui la comprennent. Hein. S'il y a un Soudanais qui arrive à Paris et puis qui demande la légende, ne sais pas quoi, tu dis pas je vais vous emmener au but de Chaumont.
Et du coup, alors, comme Patrick Fishman sachet de thé.
Oui, c'est ça. Bien infusé.
tu as infusé combien de temps dans cet endroit-là?
3 fois, j'ai été fait 3 voyages.
Ouais.
Et le deuxième et le troisième, c'est extraordinaire parce que j'ai été aux rencontres des écrivains français et mongols, ouais, qui étaient organisées par un ami qui est disparu aujourd'hui. Et j'ai vite lié langue avec des auteurs et des poètes mongols, et sympathisé notamment avec Jemen Doyo, qui est un des plus grands poètes mongols, qui est traduit aujourd'hui dans 42 langues, qui était cité au Nobel, qui ne l'a pas eu, mais qui était cité. Et ce gars me dit, moi j'ai appris à écrire sur la neige. Voilà, c'est donc des rencontres absolument extraordinaires. Et donc, j'assistais aux rencontres des écrivains français et mongols le jour, puis la nuit, on écrivait ensemble dans la steppe, sous la yourte, sous les étoiles, avec 2 traducteurs.
La langue des Mongols s'inspire du vent, de l'infini et du silence. Elle exige d'elle-même 300 mots pour décrire la robe des chevaux, décliner la forme des nuages, disposer d'un terme pour chaque sorte de glace. Elle invitait indubitablement le poète-conteur à percevoir et recréer le chant du monde. De Contes des Sages de Mongolie, édition du Seuil.
Comment tu t'es organisé avec cette question de... parce que tu n'es pas mongole.
Ah pas, non.
Du tout.
Non.
Comment tu t'es organisé avec cette question de la transmission, de la... Je dis un peu dans le désordre, hein, de la transmission, de la légitimité, du... Personne t'a dit t'es en train de nous piller,
non,
par exemple.
Non, ma technique, c'est vraiment... C'est une technique, non, en même temps qu'une humanité. Je suis un mec nul avisé. C'est-à-dire, j'arrive en Mongolie, je ne parle pas mongol. Donc, comme je ne parle pas mongol, je ne suis pas un touriste.
Ouais.
Je n'essaye pas de parler anglais avec eux. Je ne parle pas. Donc, comme je ne parle pas, il y a un vieux qui va me dire, qui va me prendre par le bras, il va m'emmener voir un truc que je n'aurais jamais vu si j'étais touriste. Après, je me fais traduire par des jeunes mot à mot. Et donc, je goûte à la langue. Et puis, comme je ne suis pas occupé à traduire, je suis dans la corporalité des autres. Comment ils s'assoient? Comment ils parlent, et je vois plein de trucs que je verrais pas si j'étais occupé mentalement Et voilà. Et dans ce cas-là, on est reçu comme un étranger, peut-être un peu comme un handicapé qui vient. et on me montre, on m'emmène. Et puis c'est des sociétés du silence. Et ce mec qui vient, finalement, il la ramène pas. Il n'est pas sans arrêt en train de poser des questions en anglais, qui est la langue de... file-moi tes terres rares, je vais te piquer ton bois et tout ça. Donc, ton propre silence, ta propre disponibilité à être naturellement ce que tu es, t'emmène dans la rencontre. Dans cette rencontre, elle t'emmène dans les lois de la nature. Et les lois de la nature sont les lois du conte.
Mais grand-père, pourquoi ramasse-t-il tous les enfants ?
Pour les formater, pour qu'ils obéissent au mange-monde, pour les emmener à l'école des robots et qu'ils ne deviennent pas musique. Ils te font peur. Mais ce sont eux qui craignent les enfants et la terre qui vous est promise.
C'est arrivé puisque je l'ai vu. Archem vivait depuis de nombreuses lunes avec son grand-père, dans le dernier village, au pied de la montagne. Le vieil homme ne l'avait pas quitté depuis ce jour où il s'était enfui de la ville en flammes. Du haut des collines, ils avaient vu l'ancienne cité s'écrouler. La fumée avait chassé les oies sauvages et elle avait emporté les rêves. « Allez, viens !» avait dit le grand-père.
« Allons, ça ne sert à rien de regarder en arrière. » J'ai une maison là-bas, dans mon vieux village. Nous y serons pour quelque temps encore, à l'abri. Tu le vois bien, Archem. Les mange-mondes sont occupés ailleurs. Les villes, là où ça grouille de monde, ils finiront par venir jusqu'à la lisière. Plus tard.
Et depuis lors, Archem vivait là, parmi les pêcheurs de truites, les tisserandes et les bûcherons. Chaque soir, son grand-père lui disait le même conte, mais pas toujours de la même façon.
Et le moment venu, ce conte sera pour toi le plus précieux des bagages, le moins lourd, puisqu'il est tissé avec des images et des mots. Tu ne pourras pas le perdre, ni te le faire voler, même par les mange-monde. Tu seras accompagné par ma vieille voix, et tu n'oublieras pas. Tu peux changer de peau, puisque tout ici-bas se transforme, pour évoluer.
Ce soir-là, quand commence cette histoire, on entend au loin dans la vallée le bruit des auto-chenilles des hommes-robots. Ils seront là le lendemain, car ils recherchent les enfants pour les emmener dans leur monde bétonné. Alors, pour la dernière fois, sous les étoiles, près du feu, le vieil homme raconte pour Archem la légende
du garçon musique.
Le plus précieux des bagages, depuis le conte musical et le garçon, avec Christian Zagaria, collection Mauvaise Graine chez Mazzetto Square.
Est-ce que les gens que tu as rencontrés, ils savaient que tu allais raconter, ils t'ont entendu raconter peut-être? Est-ce que
oui, j'ai raconté chez les Mongols, je les ai accompagnés aussi en musique. Mmh. Une fois par contre, j'étais gêné parce que je suis arrivé chez un Mongol, il devait partir, et il me dit, ben, je reste finalement 3 mois au bord du fleuve, je t'apprends le chant long. Moi, j'avais mon avion 8 jours plus tard. Mince. Et obligé de lui dire au gars, je peux pas. C'est pareil, il y a un immigré qui arrive à pas. Le chant long, en Mongolie, il y a le chant classique, il y a le chant, plusieurs types de chants diphoniques, tu sais, avec les harmonies, les harmoniques. Et puis, tu as le chant long qui ressemble un peu à un chant classique mongol. Et ce type était un maître de chant long. Et je lui dis, oui, je vais partir, mais mon âme reste ici. Donc forcément, je retourne en Afrique pour chercher le bout de mon âme que j'ai laissé là-bas. Et donc, je me refais un voyage après. Mais je n'ai pas retrouvé ce gars. Ouais. Il n'y a pas de banque postale ou il a une adresse quelque part. Il vit dans la steppe.
Alors, la différence avec un sachet de thé, évidemment, c'est que une fois que t'as baigné comme ça, infusé, tu dirais que ça t'a changé toi-même ?
Ça m'a accompagné dans mon changement. Oui, oui, oui. Mais si on disait ça m'a changé parce que j'étais en cours de changement. Mmh, ouais. Et c'est pareil pour les gens qui écoutent des histoires. C'est souvent quand tu es touché. Que tu es apte à changer. Ouais. Parce que sinon, ça reste mental ou ça reste de l'ordre de la morale ou de la tradition familiale ou je sais pas, qu'on applique des préceptes. Ouais. Là, si tu es touché par quelque chose, ça t'a brassé. Ouais. Et là, à ce moment-là, bon, j'ai juste un petit exemple. Je me retrouve avec un Indien Kogi sur un chemin. On parle, c'est plus ou moins en borborythme pour moi, ce qui me concerne. Quelques mots d'espagnol parce qu'il comprend. Et puis, j'ai mon sac à dos, puis j'ai des chips. Donc, je partage à lui. Il est mort de rire parce qu'il n'a jamais vu des chips et puis ça croque. Bon, et à l'après, il le jette par terre. Et je me dis, putain, mais c'est un Indien, bon sang. Et je lui dis, je suis choqué, pourquoi tu jettes par terre? Et lui, il comprend que ce truc, la terre-mère ne peut pas le digérer.
Ah oui.
Et ça, c'est une émotion. Mmh. Et cette émotion-là fait que t'y vas 2 fois après avant de jeter un papier par terre. Mmh. Hein? Pas parce que ta mère, ton père, le président de la République ou l'ONU t'a dit qu'il fallait pas. Parce que t'as vécu une émotion qui, tout d'un coup, même si t'es déjà sensibilisé, mais qui est suffisamment forte pour t'armer dans le changement. Mmh. Et le conte, pour moi, c'est ça. C'est les gens, d'abord, sont émus. Ouais. Et ils sont accompagnés. Ouais. Et surtout, ils ont la liberté d'aller cueillir les images dont ils ont besoin. Les conteurs, les conteuses ne sont pas des dictateurs qui balancent leur vérité. Ce sont des arbres. Et les gens viennent chercher les fruits.
Fils, réunis les pierres sacrées. Le temps est proche où la parole revient. Comme une vague. Envoie un message dans le creux du chêne. Lance ta voix dans l'arbre. Que toutes les espèces se mettent en route. Crie dans la conque le cri du vent. Que le dauphin, l'aigle, la taupe sillonne la terre. Appelle les lacs et les forêts, prononce les mots. Que les torrents roulent sur les collines, que les derniers loups se préparent au voyage. Ah, côte à côte, épervier, luciole, suive le vent. Et vous, fleurs et fruits, odeur des bois, lit de corail, grand-père, vous appelle.
Voilà les rochers rassemblés, les écorces en peau de lumière. Les mousses vertes, les rainettes, le coucou, le bouleau sacré. L'ours blanc assis sur la glace et le tatou dans les glantiers. Voilà le lièvre des volcans, le dernier qui saute en dansant. Le panda tourne sur la neige, la loutre de mer est bercée. Voici les fleurs de l'océan et les poissons, les cétacés. Oh, et la nuée des hirondelles, les grandes mouettes et les rivières. Dans des collines et des sapins, le lièvre des volcans s'éteint. Devant le soleil et les aigles, c'est le désert. C'est l'olivier. La lune et les poissons d'argent, les rouleaux écumants, les vagues. Le tonnerre, la foudre et le feu, les éphémères, les chênes vieux. Oh, voilà tous les tisserands et le lièvre des volcans. Viennent les étoiles et les cygnes, les gazelles de Cassiopée. Le sable à perte de vue, les dunes et les vagues de blé. Je vois l'ibis et le milan et un chien au pied d'un pommier. Et sautant au milieu du vent, le dernier lièvre des volcans. Et sautant au milieu du vent, le dernier lièvre des volcans.
Toutes les créatures vivantes ont répondu à l'appel du soleil. Elles affluent des quatre directions. Elles avancent avec le vent. Elles sortent des bois. Elles s'approchent. Elles prennent place dans le grand cercle autour du soleil. Les voilà dans la clairière sacrée.
C'est pas pour dire. Le cortège des tisserands dans le recueil « Duo des contes », Anne-Gaël Goduchot à la rencontre de Patrick Fishman.
Il y a eu cette première, ce premier temps en Mongolie. Ensuite, tu disais, tu es parti continuer à écouter des histoires et à faire le sacheté dans d'autres endroits, tu dis, chez les Indiens.
Oui, j'étais chez les Indiens Kogi, au nord de la Colombie. Et puis j'étais au Canada, j'ai eu un copain conteur amérindien qui m'a emmené, j'ai raconté des contes berrichons dans les réserves. Bah oui, parce que
Bah oui,
c'est exotique, c'est
bien
ça qui était, voilà, et ça parlait de voilà, et c'était voilà, j'étais chez les Touaregs aussi, bon, j'étais dans d'autres coins, j'étais raconté aussi dans quelques coins d'Afrique, enfin bon. Et voilà, à chaque fois il y a eu un échange, une imprégnation. Et puis surtout, petit à petit, on en a beaucoup parlé avec Pascal Folliot, puisqu'on écrit ensemble certains bouquins, c'est que même si la sagesse des contes est universelle, il y a des portes d'entrée.
Qui sont pas les mêmes.
Qui sont les traditions. Mmh. Et qu'on pénètre dans l'universalité en pénétrant par la porte, et non pas par une bouillie universaliste.
Ouais.
Thank you.
Juste une petite chose. Tu parlais de résistance. Est-ce que il y a une dimension politique, tu dirais, dans l'art du conteur?
Ouais, mais tout ça, faut s'entendre sur les termes. Ça dépend ce que ce serait politique. Non, je crois qu'elle est profondément humaine. C'est comme le mot résistance, on en parlait tout à l'heure. C'est double. Je prépare un sketch pour demain, un peu pour la joute des conteurs. C'est quoi être résistant, quoi? C'est résistant, ouais. C'est celui qui,
voilà,
qui est pugnace et qui s'arc-boute, ou c'est celui qui résiste à la pression et qui demeure lui-même. Voilà, on est dans ces eaux-là.
La dimension politique.
La dimension politique, si on peut parler de politique, moi je me méfie un peu parce que tout d'un coup ça sent autre chose. Mais c'est une façon de se tenir au monde. Une façon pour moi qui serait fraternelle, qui serait non jugeante, en tout cas a priori, avant de réagir comme un bêtement. C'est quelque chose dans l'ouverture, mais en même temps. C'est aussi connaître le monde dans lequel on est et pas se laisser bouffer. Donc voilà, c'est complexe. Hein, donc ça dépend aussi de chacun d'entre nous. Il y en a, ils ont besoin de se fâcher pour pas se faire bouffer. Et les Maasai, par exemple, eux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont fait un certain type de travail collectif qui leur permet de faire autrement. C'est très difficile de juger, donc... Ouais. Voilà, enfin, je pense qu'on pourrait employer peut-être un autre terme, parce que des termes comme politique et autres sont très connotés, quoi. En tout cas, ça touche à la façon dont on se tient au monde et dans les rapports à la fois de son intériorité à l'extérieur et dans les rapports qu'on tisse avec les autres. Et puis, la question cruciale, voilà, que j'essaie à mon petit niveau, et quand je peux et quand je chute pas, c'est de me dire ça... Qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation? C'est une question de conteur. Et dans cette situation, ça peut dire qu'il y a par exemple un conte avertisseur où il peut y avoir de la peur. Parce que c'est, voilà, ça veut pas dire, c'est pas gnangnang ce que je dis.
C'est-à-dire quoi? Tu cherches une position à l'intérieur de toi qui serait la position de l'amour?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est juste à ce moment-là? Alors ça peut être juste de se révolter, un moment de pousser un coup de gueule, et puis à un autre moment, non, il faut que ce soit circonstancié. Ça s'apprend pas, il faut être suffisamment ancré. Et je crois que le conte est un formidable enseignant pour vivre dans l'instant, et hors du temps en même temps, parce que c'est ça, il était une fois, ça veut dire que ça se passe ailleurs, et pourtant c'est plein de ici et maintenant. Moi j'aimais bien Rudolf Steiner qui disait, quand il racontait une histoire, il disait « c'est arrivé puisque je l'ai vu ». Et j'ai beaucoup raconté au début comme ça. Maintenant j'ai des tas d'autres formules ou je n'ai pas de formule, ça dépend. Mais j'aime bien aussi dire que par exemple mon conte vient du futur. C'est assez déstabilisant pour celui qui écoute.
Sur Tanka, tu as entendu le murmure de la roche et la prière des bêtes. Que s'avancent à présent les feuillages, les bois sacrés, toutes les ramures. J'appelle dans le cercle de vie l'arbre et le caribou. Écoute la voix de l'arbre.
Tu connais les arbres, Siotanka. Nous autres, à peine sortis de la graine, nous sommes attirés vers le centre de la terre. Il faut parfois longtemps aux racines pour trouver bon accueil. C'est dur, sombre et souvent hostile de fouiller l'obscurité. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche tout au fond?
La source?
Oui. Le lieu où l'on va pouvoir s'appuyer pour jaillir vers les oiseaux. L'endroit unique où l'envie de se retourner est si forte que la source elle-même va éclore. Là où chantent les tisserands, nous voilà désormais aussi tiges et troncs. Montant vers le soleil, nous lançons au ciel des racines blanches. Nous nous couvrons de fruits et chaque année, nous refaisons le chemin. Nos feuilles tombent, c'est l'hiver. Et du pèlerinage à la source, nous ramenons la vie. Pourquoi les hommes s'empêtrent-ils dans leurs racines? Quand ils fouillent leur terre, ils s'embourbent à souhait, ou ils prennent peur. Dis-lui, grand caribou.
Sous les racines, la beauté. Fleur d'arbre posée sur un volcan. La beauté, plus profond que le pays des taupes, dans la caverne aux vieilles peintures. Dans la crypte sombre où l'âme des couleurs se prépare aux délices du soleil. Là naissent les contes. La beauté, c'est l'étoile qui guide les égarés. L'enfant secret des pieds qui erre dans la boue. La peur gâte tout Siotanka. Elle empêche la source de couler. Pour elle, ce qui est beau est sans racine. C'est la peur qui gâte tout. Les tisserands chantent sous les racines. À la source. La beauté, c'est l'alliance, c'est l'arche de Noé. Elle ne connaît ni le bien ni le mal. Regarde Siotanka. C'était l'obscurité. Et le soleil se lève sur le monde. Tu es beau, enfant de la terre. Sois doux avec toi-même.
Tout commence et tout recommence avec le soleil. On le croyait perdu et il revient. Il revient toujours.
Ma course est sans fin, Scarabée, mon ami. Il y a bien longtemps, les tisserands ont offert la mort à l'éternité. Elle en fait bon usage. Je me cache un peu, voilà tout.
Tu es le matin du monde, grand-père. Tu apparais et la terre s'offre à toutes les créatures. Est-ce que la nuit tu rêves aux fleurs et aux papillons?
Mais oui, Scarabée. Toutes les créatures baignent dans le ciel des tisserands. La source.
La source chante.
N'est-ce pas la plus belle des musiques?
Elle sort de la boue. Et sa mélodie se lève sur le monde. Quand une créature l'entend, c'est son propre cœur qui s'élance et qui éclaire la terre.
La source dans le coffret duo des contes musicaux, c'est pas pour dire, toujours avec Angèle Goduchot et Patrick Fishman.
Par exemple, tout à l'heure, dans la discussion dans la table ronde, il était question du rapport à la nature et du fait que nous autres êtres humains, en tout cas ici, on a pris l'habitude de se donner une position par rapport aux animaux, par rapport aux plantes, aux pierres même, comme si on était en dehors. Vous disiez, en tout cas, il m'a semblé comprendre que la tradition orale de ces peuples qu'on dit peuple premier ou peuple racine, elle dit on est un des éléments seulement.
C'est ça. C'est ça. C'est pas l'homme n'est pas le centre du monde.
Ouais. C'est quand même une position politique, ça, non?
Oui, mais c'est plus que ça. Hein, moi, j'ai créé une trilogie, j'en ai déjà fait deux. Il y a l'homme naturé, l'homme et l'idée silencieux. Et il va y avoir le pont de l'inconnu, c'est une trilogie là. Et dans l'homme naturé, je dis que tant qu'on parlera d'environnement, on va continuer à souiller la terre. On n'est pas environné, on est des sachets de thé plongés dedans. Voilà. Et ça, c'est la même chose, si tu veux.
Oui.
Et voilà, donc c'est ce rapport-là. On est des fragments de la nature. Et donc, on vit avec nos parents, les chiens, les chats, les parents poissons, des parents montagnes, parents arbres.
Ils parlent tous.
Et bien sûr, c'est le monde des contes. C'est pour ça que le conte lui-même, il a toujours un coup d'avance, puisque c'est l'imaginaire. Il ne peut pas être récupéré. Si à un moment donné, on se fait récupérer, c'est qu'on a loupé quelque chose. Peut-être c'est trop politique au sens étroit.
You. danse la lune, tourne la tête
d'un feu claque au vent, au chant d'un élan, zébrant le ciel, l'arbre étincelle. Et où marches-tu? Et où penses-tu? Te poser sur la terre. Et où te mets-tu? Danseur dans tes colères.
Klaus ne s'était pas reposé depuis 2 jours et 2 nuits. Il repartait pourtant au matin du 3e jour vers la plaine, contournant les plus gros blocs de pierre. La fatigue commençait à mordre ses muscles, mais il faisait frais. C'était la plaine, les champs retournés, la terre rouge et grasse, les prairies parsemées de coquelicots. Midi. Le voilà sur un petit sentier qui longe une clôture. En virant sur la droite, il croise un beau regard plein de pâture, celui du bœuf. Ce regard lui fait du bien et du mal en même temps. C'est un regard doux, compréhensif.
Un extrait de « Le paysage est en toi » de Patrick Fishman avec Christian Zagaria.
Baisse-tu les yeux ?
Peut-être, je ne mérite pas ton regard.
La plupart du temps, les gens, quand on leur demande, si on les interroge sur le conte, disent c'est un vieux truc, non ? C'est un vieux truc du passé. C'est sexiste, ringard, normatif, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants et tout ça. Et là, toi, tu es en train de dire vraiment autre chose. Tu dis le conte a toujours un coup d'avance. Là.
Oui, mais c'est comme quelqu'un qui te dit par exemple, ah, celui-là, il est bête comme ses pieds. Mais vas-y, marche sans tes pieds, camarade. Tu vois, c'est les racines, c'est les fondements, c'est le comment je veux dire, c'est presque musical, c'est à quoi ça nous c'est fin, ça nous relie à quoi. Et quand on est accordé à cette et le conte c'est ça, quand un auditoire le conteur ou la conteuse va emporter les gens, il va les emmener sur une certaine longueur d'onde. Où là, la rencontre est possible, les images sont possibles, et chacun est connecté à une autre façon de voir le monde que ces news ou je sais pas quoi. Ils sont dans des images qui sont des images universelles, vieilles comme le monde, et qui se projettent vers un avenir avec une évolution et pas une involution comme on nous nous propose. Parce que nous proposer d'être des nanoparticules. Soi-disant intelligentes, reliées entre elles, et c'est pas de l'évolution, c'est de l'involution. Ça a beau être très moderne, c'est beaucoup plus moderne de savoir que on a un deuxième cerveau dans l'intestin qui peut nous permettre de faire des choses magnifiques.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
Je t'avais dit 10 minutes, ça fait 30. Hein.
Bon, c'est bien.
Voilà, c'est pas pour dire, c'est comme ça que se termine notre émission avec notre invité du jour, l'éclectique Patrick Fishman. Merci à Angèle pour l'avoir interviewé, merci à Pascal Folliot et le Festival du Légendaire de nous avoir accueillis pour cette interview et quelques autres à découvrir dans la saison 13 de C'est pas pour dire. Si vous voulez en savoir plus sur Patrick Fishman, je vous invite à consulter son site web, écouter ses contes musicaux et vous plonger dans sa bibliographie, notamment dans la collection des contes des sages. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, sur le site www.c'estpaspourdire.fr, nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis, quant à moi, à bientôt pour de nouvelles rencontres. I still have a dream.